pick up my line. Always on the move and I'm a grind. I'm a grind for lonely time to time. Quelques des gros titres récents. Plus de 200 personnes ont fait une randonnée de Montréal pour la Marche de l'Esprit de samedi, une collecte de fonds annuelle pour le foyer pour femmes autochtones de Montréal. Le foyer a dépassé son objectif et recueilli 65 000 $ qui financeront un projet de logement pour des femmes et des enfants autochtones. L'édifice inclura un centre offrant des services sociaux et sanitaires ainsi que de l'aide juridique. Et 26 000 fonctionnaires québécois font la grève cette semaine. Ces techniciens et employés de bureaux travaillent pour différents ministères, agences et tribunaux dans la province. Ils ont déjà fait grève deux fois cette année. Ceci est un rectificatif de la déclaration précédente de CKUT que la grève aurait lieu la semaine dernière. Et dès samedi, l'Ontario ne requiert plus le port de masque, sauf dans les facilités de soins de longue durée et les maisons de retraite. Des organisations peuvent garder leur politique interne concernant les masques.
Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux.
Nous devons reconnaître les souffrances des survivantes de toutes les violences faites aux femmes dans les conflits armés.
Vous écoutez le magazine Dignité Noire, présenté par Mbayaji Mbayriway. Au sommaire, cette semaine...
Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Dignité Noire sur CKIA 88.3 FM. Nous sommes le 6 juin 2022, je suis avec mon fidèle compagnon Brice. Brice, comment ça va?
Ça va et toi?
Un peu distrait par le beau temps, on dirait. Il fait très beau, mais on va se concentrer pendant une heure, jusqu'à 20 heures, et puis après on va aller se promener, le soleil encore haut. Alors, mesdames et messieurs, vous pouvez toujours nous suivre, comme d'habitude, sur notre page Facebook, Dignité Noire-CKIA-FM, sur en onde aussi, 88.3 FM, bien sûr, et sur notre page Facebook, www.ckifm.org. Si vous manquez nos émissions, c'est pas grave, elles sont toutes archivées en balado sur www.ckifm.org justement. Alors ce mois de juin, je me propose de vous faire découvrir des fermiers afro-québécois. C'est un projet qui nous tient à cœur et que nous caressons depuis deux ans, faire une émission sur les fermiers afro-québécois. Donc ce juin, c'est chose faite, nous vous proposons quatre émissions portant sur les différentes personnes qui se lancent dans la terre, la culture de la terre. Ils se comptent sur le bout des doigts d'une main, mais les afro-québécois et afro-québécoises commencent à investir la terre et à créer des fermes et des maraîchages. Dignité Noire vous présente le parcours de quelques-uns et de quelques-unes de ces entrepreneurs agricoles, dont Edem Amegbo, propriétaire de la ferme de jardin Edem qui offre des aliments bio à Farnham, Jean-Philippe Vézina, propriétaire des jardins Lacou à Denham, et Madame Christine Dakouyo, propriétaire des potagers du Pouce Vert, une entreprise maraîchère de la MRC d'Abitibi. On vous amène à Abitibi de l'autre côté. Pour cette première émission, donc, je reçois Monsieur Edem Amegbo. Bonsoir, monsieur Amegbo.
Bonsoir à vous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous?
Ça va bien, ça va bien.
Très bien. Alors vous, je rappelle que vous êtes électrotechnicien de formation, vous êtes réorienté vers la terre et vous êtes propriétaire de votre ferme à Farnham dans les cantons de l'Est. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs et auditrices qui font un tour vers l'Estrie cet été à aller vous rendre visite à Farnham. Alors, j'ai écouté votre histoire là par Radio-Canada, ça m'a beaucoup plu et puis j'ai dit bon, on vous a inclus dans notre liste là d'émissions sur les fermiers afro-québécois pour découvrir un peu votre parcours qui est un peu spécial et puis voilà, les défis pour une personne comme moi ou comme Brice ou comme autre personne qui veut embrasser la terre au Québec. Bon, vous êtes un exemple là, vous pouvez aussi nous en parler un petit peu. Pour commencer, juste vous peut-être je vous laisse la parole pour vous parler un peu de votre parcours là. Vous êtes originaire du Togo, je crois. En quelle année vous êtes arrivé au Québec?
Je suis arrivé au Québec en 2002. Je suis arrivé en 2002, puis j'ai étudié en électronique en ce temps-là pendant trois ans. Puis après, j'ai commencé à travailler là-dedans, en électronique. Puis après avoir travaillé sept ans dedans, j'ai commencé l'université pour devenir ingénieur. Donc c'était en cours de mon cours à l'université que j'ai j'ai vu que ce que je faisais ne me plaisait plus vraiment. Donc c'est là que j'ai commencé à réfléchir à mon avenir, puis j'ai décidé d'arrêter l'université. J'ai décidé d'arrêter mon cours d'ingénierie, puis je me suis lancé dans un cours à distance à l'Université Laval.
Ah oui, à Québec.
Oui, c'est ça, à Québec, c'est ça. Puis durant le cours, en même temps, j'ai travaillé sur une ferme à Farnham. Donc c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre. Puis après, pour moi, c'est évident que j'allais devenir maraîcher après.
Mais le cours à l'Université Laval, c'est un cours sur quoi? Sur l'agriculture aussi?
Oui, c'était un cours à distance, un cours sur l'horticulture. Donc je ne voulais plus retourner à l'école à temps plein. Donc je faisais le cours à distance de chez nous, puis je travaillais en même temps sur une ferme pour la pratique.
Ok. Mais est-ce que l'amour de la terre, ça, vous l'avez amené du Togo ou vous l'avez attrapé ici, la terre, ça vous parlait toujours?
Un peu des deux. Je pense que je l'ai amené du Togo quand même, mais moi, mon rêve, c'était de devenir ingénieur quand j'arrivais au Québec. Mais je pense que c'est rendu ici, quand j'ai commencé à travailler, après 10 ans, je commençais à trouver que j'aimais plus vraiment ce que je faisais comme technicien en électronique. Donc je voulais me réorienter. Puis la question que je me suis posée, c'était de savoir c'est quoi j'aime faire dans la vie. Puis dans ce temps-là, j'avais un petit jardin à la maison. Okay. Puis j'ai réalisé que c'est vraiment pendant que je faisais mon jardin que j'étais le plus heureux au monde. Donc je me suis dit, peut-être c'est vers ça qu'il faut que je me réoriente. Donc j'ai montré cette partie de là. Mais c'est vrai que j'ai vu mon père tout jeune avoir un jardin, puis travailler dans son jardin. Puis je pense que c'est venu de là. Mais en étant plus tard ado, je pense que je suis parti vers autre chose complètement, mais c'est revenu plus tard.
Okay. Mais une réorientation, c'est pas évident. Il y a sûrement quelques appréhensions. Oui, là, vous travaillez depuis 10 ans. J'imagine que vous avez une vie tranquille. Vous décidez de changer complètement. Y avait-il des hésitations un peu au début là?
Oui, beaucoup. Beaucoup, surtout parce que j'avais déjà des enfants, une maison à payer. Donc, c'était comme un gros choix, une grande décision à prendre. J'ai hésité longtemps. Mais à un moment donné, j'ai fait le pour et le contre. Puis pour moi, c'était plus évident qu'il fallait aller vers quelque chose que j'aime. Je voyais comme, en ce temps, j'avais 33 ans, puis je me disais s'il fallait attendre jusqu'à à ma retraite pour vivre ce rêve, j'allais entendre trop longtemps, quoi. Donc je me suis dit non, c'est le temps d'y aller tout de suite, puis on va voir ce qui va arriver.
Ouais. Parce que j'imagine une telle décision, ça se prend aussi en famille. Hein. La famille devrait vous appuyer là-dedans aussi ou...
C'est un choix que j'ai pris tout seul au fond, dans le sens que quand j'ai fait ce choix, ma vie prenait aussi une autre tangente, je me suis séparé, donc c'est comme tout est arrivé en même temps, donc c'est un choix que j'ai assumé tout seul.
Ok, d'accord, je vois.
Donc je pense que ça m'a facilité le choix aussi.
Mais là, vos parents à Lomé, là, ils ont envoyé ici pour voir leur fils ingénieur travailler, je sais pas moi, à la NASA ou une grosse compagnie et tout, là. Mais là, oui. Vous vous ramassez sur la terre à Farnham. Quelle était la réaction là des parents à Lomé, là?
Mes parents étaient très frustrés. Mes parents n'étaient pas contents. Ils étaient très hésitants pour moi, surtout ma mère.
Ah oui?
Ils trouvaient que je gâchais ma chance un peu de laisser ma belle carrière. Je travaillais dans une multinationale qui était connue mondialement. Donc pour mes parents, quand on demandait d'après Edem au Togo, ils disaient, ah, il travaillait à quelle place? Puis c'était connu mondialement. Ouais. Donc dire qu'il a lâché ça pour travailler à quatre pas dans un champ, ils n'étaient pas fiers, mes parents. Donc ils étaient comme pas trop sûr, mais en même temps, j'ai tellement insisté qu'à la fin, ils se sont dit, mais c'est ça que tu veux vraiment faire. Vas-y, on ne peut pas t'empêcher. T'es un majeur, donc c'est ça.
Ouais, je comprends. Ouais. Là, comment ils se sentent maintenant, là, après? Ça fait 8-10 ans là, que vous êtes fermier, je pense. Comment ils... Est-ce que ça a changé maintenant? Leur regard a changé?
Oui, ça a changé, je dirais, déjà à la première année. Parce qu'au fond, la décision était difficile à accepter par la famille, mais mon père était celui qui m'a soutenu le plus. C'est ça qui était étonnant. Mon père était assez autoritaire parce qu'il est mort maintenant. Mais dans le temps, quand j'avais parlé de ce rêve, il m'a dit, ben, moi aussi j'aime ça, puis je pense que tu le tiens de moi. Donc si c'est vraiment ça que tu veux faire, vas-y. Donc mon père a été le premier à flancher, à accepter le rêve. Puis après, ben, ma mère n'avait pas le choix, mon frère et ma soeur aussi. Donc tout le monde a suivi après. Donc okay. Ils m'ont soutenu vraiment parce que même ma première année, ça n'a pas bien été. Ma première année... au fond, ça n'a pas du tout été rentable. Donc, je me suis comme accumulé des dettes en fin de la première année. Puis, c'est mes parents, mon frère et ma soeur qui m'ont aidé à éponger ces dettes dans le temps. Donc, ils croyaient quand même dès le début.
Non, ça, c'est intéressant quand même. Mais là, on a parlé de votre famille, tout ça. L'entourage, n'est-ce pas? Quand on est immigrant, là, ici, l'entourage nous influence quand même. Quand on a un petit projet, là, l'entourage va vous tirer de gauche à droite. Comment votre entourage a réagi là, en particulier, peut-être j'imagine, à l'époque vous aviez 33 ans, les jeunes comme vous, surtout les jeunes immigrants aussi, comment ils ont réagi là, quand vous avez évoqué l'idée de devenir fermier?
Mais je vous dirais que le début de mon projet, c'était une période de grande solitude pour moi. Je me suis retiré un peu de tout, dans le sens que, justement, comme vous l'avez dit, on est des communautés très influençables. Donc au début, j'ai parlé de mon rêve au plus vieux, de la communauté togolaise, tout ça. Puis les réponses que j'avais, c'est pas ce que je voulais entendre. Donc à un moment donné, je me suis dit, bah, tant qu'à me faire dire, fais pas ça, puis tout ça. Donc je me suis retiré de la communauté un peu, parce que je voulais pas me faire influencer justement. Donc les premières années, c'était des années plus où je vivais vraiment seul, avec ma soeur vit au Québec aussi. Donc c'était ma soeur qui était côté famille la plus proche ou amie, mais sinon tout le reste, je me suis comme fait une coquille pour ne pas me faire influencer, pour ne pas aller vers mon rêve.
Ouais, bah c'est parfois c'est ça, il faut s'isoler parfois, surtout quand on croit en son rêve là. Je pense que parfois quand on y croit, il faut foncer envers et contre tout, c'est important. Brice, si tu as des questions, n'hésite pas. Alors mesdames et messieurs, je rappelle que je suis avec Edem Amegbo, fermier afro-québécois de Farnham dans les cantons de l'Est. Fait que si vous passez dans les cantons de l'Est, n'hésitez pas à aller le voir. Alors Edem, là tu as décidé d'y aller. J'imagine qu'il y a quelques défis quand même là. Peut-être acheter du matériel pour labourer, avoir un capital, tout ça. Est-ce que vous avez fait face à quelques défis? Comment vous avez remédié?
Il y avait beaucoup de défis au début, mais moi, au fond, il fallait commencer par acheter une terre. C'était le plus gros défi de tout. Et puis, dans ce temps-là, en ayant juste mon salaire à moi, j'ai cherché longtemps puis j'ai rien trouvé. Donc, ce qui m'a sauvé, c'est un programme de location de terre qui existe dans ma région ici. Okay. Le programme Banque de Terre. Donc, c'est un programme que j'ai découvert en 2013. Je me suis présenté à eux. Je leur ai expliqué mon projet. Puis eux, leur but, c'est de te présenter à un propriétaire qui a une terre, mais qui s'en occupe, au fond, qui ne l'utilise pas. Donc, c'est grâce à ça que j'ai pu trouver une terre. Donc, c'est là que je suis depuis. J'ai signé en 2014. Donc, ça va faire 10 ans. Mais ça fait déjà 9 ans que je suis ici. Donc c'est la première chose à faire, louer une terre. Donc, ça m'a aidé à partir. Puis, l'autre chance que j'ai eue, c'est que la terre que j'ai louée, le propriétaire avait déjà beaucoup de machinerie. Okay. Donc, au fond, ce qu'il faisait, c'est qu'il me louait sa machinerie. Donc, il me louait la terre, puis il me louait la machinerie. Donc, deux problèmes étaient réglés en même temps en partant. Ensuite, l'autre problème, c'est l'expérience. C'est ça, l'expérience, on ne peut pas l'acheter, il faut le vivre. Donc, les premières années, c'était très dur parce que même si je rêvais de faire ça, j'avais aucune expérience dedans. Donc, c'est là, en travaillant sur notre ferme pendant 2 ans, que j'ai vraiment appris les rudiments du métier. Puis, mon mentor, la ferme où je travaillais, la ferme des 300 fonds, je pense que c'est grâce à eux que je peux dire que je fais ça maintenant parce qu'ils m'ont vraiment guidé pas à pas les premières années. Donc, c'est ça qui, c'était les 3 affaires-là qui m'ont aidé vraiment dès le début. Pour mes premières années pour passer à travers.
Parfait. Là, je pense que Brice qui est mon collaborateur, a une question aussi pour vous. Brice vient d'un pays voisin du vôtre, le Bénin.
Ah oui.
Oui.
Ouais, ouais,
vous êtes de Cotonou, là.
je suis à Dia, donc je suis du sud-ouest.
Du sud, ok.
Ouais, c'est ça. Donc. C'est bien ce que vous faites. C'est rare de trouver des familles ici au Québec ou bien à Québec ici chez nous. Donc là où vous êtes présentement, je ne sais pas si Mbaye avait prévu cette question là, mais moi j'aimerais savoir en termes de chiffres, c'est quoi la production que vous faites par année et en termes de rentabilité aussi, en termes d'exportation, comment vous exportez vos produits? Que ce soit à l'intérieur du pays, le Canada, ou à l'extérieur du pays aussi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça? Que ce soit au niveau de la production?
J'exporte rien. Au fond, tout ce que je produis est vendu localement. Je fais des paniers bio. Donc, tous mes clients pour mes légumes que je fais sont vraiment des gens qui habitent à moins de 20 km de la ferme. Pour moi, c'est quelque chose de très important dès le début d'avoir un projet biologique, mais écologique surtout. Donc, pour les légumes d'ici, je les vends vraiment à des gens d'ici, des gens qui sont proches de la ferme. Ensuite, pour les légumes africains, c'est sûr que je cible aussi les Africains qui sont proches, qui sont dans l'Estrie. Mais plus ça va, maintenant j'ai des Africains qui viennent de Montréal, de la Rive-Sud, même des fois de Québec. Donc, je vais de plus en plus loin, mais j'espère pas vraiment plus loin que ça. Au fond, ça se limite au Québec ou à 100 km autour de la ferme, pas plus loin que ça.
Mais c'est dû à cause de la demande aussi, parce que si la demande était plus grande, vous allez en produire plus grande et aller envoyer plus dans d'autres régions.
Pas forcément. Moi, je vis ce rêve-là parce que j'aime la terre, j'aime ce que je fais. Avoir une grande terre pour produire à travers le Canada, ça veut dire que je vais devenir un gestionnaire de ferme. Je vais avoir peut-être 30 employés, mais ce n'est pas mon but. Mon but, c'est d'être avec mes employés tous les jours, d'avoir la main dans la terre. de les aider. Donc, j'ai une équipe actuellement de 5 employés. Peut-être j'en aurai 2-3 de plus dans un avenir, mais mon but ne sera jamais de produire en quantité industrielle pour livrer à travers le monde. Je me contente vraiment de la clientèle proche, de faire mon métier qui est la terre, pas de gérer une grosse ferme où il y a c'est tellement gros des hectares qu'on voit plus ce qu'on fait. Là. C'est pas ça mon but.
Ok, super. Maintenant, et en termes de production annuelle ou bien, c'est pas semestrielle, combien vous en faites pour vos produits?
Je travaille sur 4 acres. 4 acres, c'est comme 2 hectares, un peu plus environ. Donc, on produit du mois d'avril à novembre, à peu près. Ouais. L'hiver, je fais rien parce que je ne veux pas utiliser des serres chauffées parce que le chauffage coûte tellement cher au Québec à cause de l'hiver. Donc, j'avais calculé que ce serait pas rentable. Donc, je préfère me concentrer sur la période chaude de l'année, donc qui est de avril à novembre. Donc, c'est vraiment ça ma production. Le chiffre d'affaires, ça a commencé tranquillement. Ouais. À mes premières années, peut-être même pas 20 000. Là, maintenant, je peux sortir un chiffre d'affaires qui peut aller à 130, 140 000. Wow. Mais c'est sûr qu'après, la rentabilité, c'est pas le domaine le plus rentable dans le sens qu'il y a beaucoup d'intrants à acheter, il y a des employés à payer. Donc, l'agriculture, c'est pas très, très rentable. Tu peux t'en tirer avec un 30% de profit dans le meilleur des cas. Donc, c'est ça que je veux aussi atteindre, mais je l'atteins pas encore absolument tout le temps.
Okay. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un métier qui nourrit son homme, sa famille, qui permet de vivre dignement?
OK. Oui, c'est sûr. Avant, c'est sûr que mes premières années, je travaillais à la ferme l'été. L'hiver, je travaillais dans une station de ski. Donc, ça me permettait de passer à travers l'année. Ouais. Non, c'était pas vraiment vivable. Mais là, depuis l'hiver passé, j'ai pas travaillé au ski. Donc, j'arrivais à quand même gagner assez pour pouvoir vivre dignement. Je vis pas richement, mais c'est pas ça mon but non plus. Mais j'en vis bien. Puis l'hiver, je peux prendre off puis arrêter de travailler.
J'ai vu le reportage à Radio-Canada avec l'animateur là qui disait que finalement, il était devant votre maison, tout ça, il disait est-ce que vous avez accompli le rêve nord-américain avec le bungalow, la voiture 4x4 et tout?
Il m'a fait rire avec ça, ouais. Ouais, j'ai réalisé le rêve américain.
Ben, c'est ça, moi j'ai vu un peu vos images, vous avez une belle famille, une belle petite famille heureuse, fait que ben là, je trouve que c'est intéressant quand même parce que vous êtes bien dans ce que vous faites. Là, j'ai l'impression, en vous écoutant, qu'il y a des valeurs derrière ce projet aussi. Hein. Vous êtes écolo, vous voulez vraiment être au niveau local, faire des gros chiffres, ce n'est pas votre intention. Je pense qu'il y a des valeurs aussi, peut-être sociales, humaines, derrière ce projet-là de ferme chez vous?
Oui, moi, je pense que c'est les valeurs surtout qui m'ont poussé vers ça, dans le sens que, à l'usine où je travaillais avant, je gagnais bien ma vie. C'est juste que je ne voyais pas la finalité de ce que je faisais. Je fabriquais des pièces qui allaient dans une machine X, Y, Z, mais je ne voyais pas le but de la vie de juste faire des pièces à longueur de journée sans savoir le but. Ici, à la ferme, je pars d'une graine, j'arrive au produit final, je donne ça à un client qui le mange, qui est content. On dirait pour moi, ça donne un sens incroyable dans ma vie. Là, j'ai des clients qui sont là depuis ma première année. J'avais vu leurs enfants à 2-3 ans, puis ils sont rendus maintenant à 7-8 ans. C'est des enfants qui me connaissent, je fais partie de leur famille à travers mes légumes. Donc pour moi, ça fait comme vraiment sens. Ça fait partie de ma paye, ça aussi, donc... C'est pour ça que je ne veux pas devenir trop gros non plus. Mes clients, je les connais la majorité par leur nom, je connais leur famille. On se côtoie souvent. Donc c'est des valeurs comme ça qui m'ont poussé vers ce choix-là.
Il y a dans le documentaire en question, là, qui est sur Internet, vous pouvez aller voir, c'est un très bon documentaire sur les immigrants à travers le Québec. Il y avait une dame française là, qui disait ça, c'est qu'elle aimait votre philosophie à l'effet de c'est vous donner au suivant, hein, vous vous occupez de la terre. Pour donner au suivant. Et elle disait même une phrase, je pense, c'est comme vous lui avez redonné la joie de vivre, vous avez enrichi sa vie hein, depuis que vous êtes là. Je trouvais que c'était vraiment... Donc, finalement, vous êtes adopté même par les gens de la région, là, Farnham. Vous êtes adopté finalement.
Oui,
vous êtes un enfant du coin, là.
Oui, maintenant, je suis un enfant du coin, on peut le dire comme ça. Je connais... Au fond, je ne suis pas à Farnham, je suis à East Farnham. East Farnham, c'est vraiment un petit village qui est comme à 15-20 minutes de Farnham. Okay. Farnham est plus connu, bien sûr, mais à East Farnham, c'est tout petit, puis je connais pas mal de monde maintenant. Il y a un dépanneur, puis chaque fois que j'arrive, on parle des minutes tout le temps. Donc, c'est vraiment mon petit coin, j'aime ça.
Moi, j'aime beaucoup. Chaque été, depuis 6 ans, je me donne une tradition. Là, chaque été, je fais les cantons de l'Est, la route des vins. Puis, oui, j'ai vu que vous aimez beaucoup le restaurant, la fermette fumée, je crois, à Coinsville.
Oui.
Mais là, vous avez tellement bien parlé de ce restaurant. Moi, je vais y aller cet été-là. Je suis passé à Coinsville il y a 5 ans. Parce que d'habitude, je fais les cantons de l'Est, mais quand on se vide, j'y vais pas souvent. Mais là, cette année, je vais aller voir ce restaurant, manger dans ce resto-là.
Une belle place. Ouais. Elle n'est pas développée.
Parfait. Donc là, vous offrez des paniers bio, c'est ça? En quoi? Quelle est la composition de ce panier-là? Et vous me dites que vous le livrez aussi jusqu'à Québec, quand même? Combien ça coûte un panier bio chez vous, là?
Un panier bio chez moi, ça coûte 32 $.
Par semaine, chaque semaine?
Chaque semaine, c'est ça, oui. Puis le panier est constitué quand même de légumes d'ici, comme laitue, choux, carottes, tous les légumes qui poussent bien dans les climats comme au Québec. Mais moi, ce que j'aime aussi montrer à mes clients qui sont en majorité québécois, c'est de leur faire goûter des légumes qui viennent d'ailleurs. Donc, je vais mettre un peu de légumes comme du okra, des épinards africains, de l'aubergine africaine, une fois de temps en temps pour leur montrer d'autres choses. Mais le panier va rester quand même à valeur québécoise, à saveur québécoise. Donc, c'est plus des légumes d'ici. Donc, ça, c'est mon premier marché. Okay. Puis mon deuxième marché, c'est vraiment les légumes africains. Puis ça attire vraiment juste les clients africains qui viennent de la rive sud de Montréal.
Okay. Vous disiez que vous livrez aussi à Québec?
Non. J'ai des clients qui viennent de Québec, mais je ne livre pas à Québec. Bon, je ne fais pas de livraison. Mon plus loin point de chute, c'est à Grimby, qui est à 20 km de la ferme. Donc je livre vraiment local. Je livre à la ferme directement, puis à Grimby.
Gens qui aiment l'entrepreneuriat. Il y a une autre béninoise, la Sabine, qui fait dans l'entrepreneuriat aussi. Elle m'a dit de la mettre en contact avec vous. Là. Fait que peut-être je vous mettrai en contact après l'émission.
C'est bon.
Bon, parfait. Donc là, vous, ça fait 8 ans ou 10 ans que vous êtes là dans ce business-là. Comment vous vous voyez là, dans 5 ans, 10 ans?
Dans 5 ans, 10 ans, je me vois toujours faire la même chose, mais avec un peu plus de variété peut-être. J'aime ça essayer de nouveaux légumes tout le temps. Je pense que c'est ça qui me donne... du gaz, c'est ça qui me donne de l'énergie. Vraiment, comme il y a 2 ans, j'ai essayé un légume malgache, juste parce que j'avais un client, du coup, une madame qui vient de Madagascar, qui est venue me voir, qui voulait absolument que je lui fasse le bread mafane, un légume que je ne connaissais pas. Je l'ai essayé, puis ça a bien réussi. Donc, c'est un nouveau légume que j'offre. Donc, c'est comme, j'aime ça tester de nouvelles choses. Donc, d'ici 5-10 ans, je me vois encore faire des paniers bio, faire des légumes exotiques, mais peut-être racheter de nouveaux légumes encore que je connais même pas peut-être, mais que je vais essayer, puis que je vais adorer cultiver. On dirait le côté expérience de la chose aussi. J'adore ça. Donc, je me vois toujours faire la même chose, mais élargir ma palette un peu. C'est ça que je veux.
Au niveau des légumes africains, là, bon, vous avez cité les gombos, tout ça. Est-ce que, je ne sais pas si c'est vous, là, Boukhar Diouf a été allé en Estrie voir un fermier. C'était vous, hein?
Oui, Boukhar Diouf est venu.
Oui, avec le piment, là. Il parlait de piment, tout ça.
Mais chez moi, il a fait l'arachide.
Ah, ok, chez vous, c'est l'arachide.
Ouais. C'est l'arachide. Puis on l'a testé, puis les résultats ont été concluants.
Donc, mais c'est ça, moi, c'est ça qui me fascine. Hein. L'avantage d'avoir aussi des fermiers afro, c'est que vous testez d'autres légumes ici. Est-ce que, actuellement ou dans le futur, vous entrevoyez un marché potentiel pour ce genre de légumes exotiques, là, comme les arachides, les piments, le gombo? Est-ce qu'il y a un marché, là, présentement ou à venir, je veux dire?
Ben, moi, le mieux que je vois, c'est peut-être avoir un kiosque à la ferme où les gens peuvent venir acheter directement ces légumes, mais après, peut-être faire de la transformation, une genre de transformation où on pourrait avoir ces légumes hors saison, parce que souvent, ce que je remarque souvent, c'est que les gens m'appellent en plein mois de janvier, puis ils me disent, je veux qu'elle la ferme, parce que madame, on est en janvier, c'est impossible de faire pousser ça au Québec.
Il n'y a pas de gombo en janvier, là.
C'est ça. Donc, je me dis, si je pourrais peut-être en faire plus, puis les congeler ou les transformer d'une façon, comme ça, je pourrais fournir ma clientèle à l'aller longue. Donc, c'est ça un projet futur, peut-être.
Mais donc, là, vous avez des projets de transformation éventuels aussi, là?
Oui, c'est ça. Puis, on commence à être quand même nombreux à faire ça. Donc, j'ai des collègues comme Jean-Philippe, qui est à 15 minutes à peine de chez moi. Donc,
Vézina.
Oui, Vézina, c'est
ouais,
ça.
Je le reçois lundi prochain. Bon,
justement, donc, il n'est pas loin de chez moi. Okay. Donc, on se rencontre souvent l'hiver. On fait des brainstorms ensemble, puis on se dit, ben, il faudrait peut-être à un moment donné créer un genre de logo, pas logo, mais un genre de compagnie ensemble, quelque chose qui pourrait répéter toutes nos productions, peut-être, on se dit pourquoi pas, donc c'est des possibilités à long terme.
C'est très intéressant. Bon là, ouais. Vous êtes un pionnier, là, je veux dire, admettons qu'il y a des jeunes Africains, immigrants ou pas, qui nous écoutent, puis l'idée de notre émission, c'est aussi ça, on raconte des histoires sur nous, là, pour en inspirer d'autres aussi. Donc, admettons qu'il y a une jeune dame ou un jeune homme qui vous regarde, qui nous écoute et puis qui est intéressé à aller se lancer dans la ferme, le travail de la terre. Oui. Quel conseil vous lui donneriez-vous puis à quoi doit-il faire attention?
Mais c'est de savoir d'abord si c'est une passion pour lui. Si c'est une passion, je lui dis, mais fonce mon homme, fonce ma femme, puis vas-y le plus loin possible que tu peux, parce que c'est sûr qu'à la base, c'est comme impressionnant quand on voit tout ce qu'il faut apprendre, mais il faut y aller une bouchée à la fois, dans le sens que moi, ma première saison, j'ai tellement fait d'erreurs, mais en bout de ligne, c'est pas grave ces erreurs. C'est ça qui m'a formé. Donc si quelqu'un est vraiment passionné, puis dit c'est ça qu'il veut faire, il peut aller travailler sur n'importe quelle ferme proche de chez lui ou venir même directement ici puis apprendre. C'est un domaine tellement vaste qu'on ne se considère pas vraiment comme des concurrents. On est plus des collègues. Moi, tous les maraîchers que je connais dans le coin, quand on se rencontre, on se donne une tape dans le dos, on se parle de nos problèmes, de nos réussites. Donc, quelqu'un qui veut se lancer dans le domaine, bienvenue, puis viens, on va travailler ensemble, tu vas apprendre, puis c'est ça.
Oui, c'est très intéressant. Ou peut-être qu'il peut aussi aller faire un stage en été. Je ne sais pas si vous accueillez des stagiaires en été chez vous, là.
J'en accueille des stagiaires souvent qui vont dans les écoles d'agriculture, mais j'ai aussi des gens comme au fond, j'ai eu beaucoup d'amis avec cette ferme-là, des gens qui sont venus de Montréal, de Longueuil, qui sont venus juste comme ça pour me dire, mais bonjour, je vois ce que tu fais, puis je vais apprendre, puis je dis, mais viens m'aider d'abord pour apprendre. Donc, j'ai eu comme des amis à cause de ma ferme, puis c'est des gens qui ont appris avec moi, ils viennent, ils me donnent un coup de main le samedi avec leurs enfants. Ça leur fait comme une petite sortie. Donc oui, j'en reçois souvent des gens comme ça.
Alors, mon cher Edem, je te promets que moi, je vais passer cet été. Je veux t'appeler, j'ai ton numéro, je veux t'appeler. Moi, comme je dis chaque été, là, je fais une semaine dans les cantons de l'Est. Fait que je veux t'appeler, puis un samedi, je veux venir faire la ferme. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, Brice, mon père aime beaucoup le travail de la terre. Puis mon père, c'était, comme tu dis, là, c'est un peu comme ton papa Edem, le papa africain dur, là. C'est au marché, où il fonctionnait au fouet, là. Moi, je n'aimais pas le travail de la terre. Fait qu'il me fouettait pour aller au champ. Puis j'allais au champ.
Mais
là, mon père, il tenait à ce qu'on travaille le champ. Parce que chez mon père, la terre, c'est une valeur hein, très importante, là.
Oui.
Il dit, un homme qui n'aime pas la terre n'est pas encore un homme. Fait qu'il nous amenait à aimer le travail de la terre. Puis c'était au coup de fouet, là. Fait que moi, j'allais au champ et puis... on allait au champ chez mon père, là on allait à 8h, on rentrait à 17h. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le travail de la terre, mais ça me ferait plaisir d'aller un samedi faire un coup de main, donner un coup de main. Ce que j'aime chez toi aussi, là, c'est que tu crées de l'emploi. Tu embauches du monde. Là, tu en as combien là?
Là, j'en ai 5 actuellement dans la semaine. Puis, de cette semaine aussi, j'ai des gens qui viennent m'aider. Donc, mon équipe tourne autour de. Entre 5 et 8 personnes, si on prend toute l'équipe, à 8 personnes.
Ben c'est vraiment ton histoire est intéressante. Tu arrives ici, tu travailles, tu as une bonne condition, tu te réorientes. C'est pas facile, mais là, ça commence à marcher, tu gagnes bien ta vie, tu commences à donner de l'espoir à d'autres en les recrutant. Moi, j'ai envie de ce genre d'histoire-là. Ben, tout n'est pas bon, il y a des choses qui ne sont pas bien, mais ce genre d'histoire, moi, j'aimerais qu'on les raconte à nos jeunes frères et sœurs, parce que ça peut beaucoup les inspirer aussi. Là, Brice, je ne sais pas si tu as une question. Là, mais...
Non, tu avais dit tu irais en samedi, ça m'intéresse aussi.
Ah oui, on peut aller ensemble.
Ouais, c'est ça.
Et, Brice est le bienvenu aussi.
Et aussi, ce qui est intéressant, c'est par exemple, imagine, je prends vacances, je peux aller passer une semaine là-bas, rester au niveau de la ferme, t'aider pendant une semaine et tout, apprendre des choses comme ça. Ça fait genre sortir de l'univers du Québec et puis aller... en aventure pendant une semaine et revenir. Tu vois, des choses comme ça me plairait bien.
Mais les fermiers, c'est pas...
Justement, samedi prochain, on nous donne quelque chose à la ferme pour que les gens viennent visiter puis nous aider.
OK.
Donc, c'est ça, ouais.
À quelle heure est-ce que tu peux nous donner ton planning journalier, là? Tu t'élèves à quelle heure? Parce que il y a Christine Ducayo, là, c'est une maraîchère qui est d'origine burkinabé, qui est en Abitibi. Puis elle se lève, je pense, à 5h ou 6h. Elle se couche à 22h30. Elle a donné son planning. Là. C'est pas le tien, c'est comment? C'est semblable?
Mais ça ressemblait à ça au début, mais c'est parce qu'à un moment donné, on dirait que le corps ne tient pas la route. Là, mais je dirais que actuellement le printemps, c'est la pire période parce qu'il faut tout faire. Il faut comme planter. Il ne faut pas prendre du retard. Donc, rendu à 4h30, là, on dirait quand je pense à tout ce que j'ai à faire dans la journée, j'arrive plus à dormir. Donc, je me réveille souvent autour de 4h30. Puis là, je suis encore au champ actuellement. Je n'ai pas fini complètement encore. Donc, je pense finir vers autour de 7-8 heures. Mais rendu au mois de septembre, là, je commence à ralentir tranquillement. On dirait, c'est un métier qui suit aussi le soleil. On dirait l'être humain a plus d'énergie quand il fait soleil plus longtemps. Donc, moi, je pense qu'on suit vraiment le soleil. Au printemps, on est comme des fous du travail. Mais plus ça va, plus on est fatigué. Puis c'est la vie normale, quoi.
Ouais, ouais. Non, ça c'est vrai. Ouais. Moi, en hiver, j'ai comme une baisse d'énergie. Là. Puis le printemps, ouais, là, je suis chaud, là, je suis j'ai plein d'énergie, moi aussi. Ben, est-ce que, là, c'est ça, Brice, tu parlais tantôt de la possibilité d'aller t'aider un coup de main, là, un ou deux jours. Est-ce qu'il y a des fermiers, parfois, là, qui ont des. C'est un genre d'auberge ou des logements, là. Est-ce que chez toi, il y a ce genre de trucs dans ta ferme ou c'est un projet? Est-ce que tu y penses?
Non, mais moi, je suis en location, au fond. C'est pas chez nous ici.
Ah, donc, ok, la ferme, c'est en location.
C'est ça. Okay. C'est en location. Le propriétaire a de la place, mais c'est un chalet pour lui. Il n'y a pas de place vraiment pour louer. Mais c'est vrai qu'il y a des motels, des affaires pas loin.
Ouais, c'est
quelqu'un
ça.
Qui aimerait visiter la coin et puis donner un coup de main à un fermier, c'est quand même très possible.
Non, c'est un coin très touristique. Mais est-ce qu'éventuellement, ouais. tu comptes acheter ta terre aussi là-bas?
Ah, bonne question. J'y pense, mais en même temps, des fois, je sais pas trop parce que moi, j'adore ce métier, mais j'ai pas envie de m'endetter non plus avec les terres sont tellement rendues à des prix exorbitants que je pense pas comme me donner un stress de plus. Alors que moi, ce que j'aime, c'est ce que je fais. Donc, je me dis, peut-être que le mieux, c'est de rester en location toute ma vie, puis le jour où je finis, quoi. Donc, je sais pas, j'y pense, mais c'est pas ma priorité.
Ouais, mais ce programme dont vous parliez, là, qui vous a aidé à acquérir. Avoir cette terre-là, c'est intéressant. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres régions aussi, là, mais c'est intéressant.
Oui, oui. Au fond, c'est un programme qui a été lancé ici en Montérégie. Puis là, c'est rendu dans tout le Québec.
Ah, okay.
Donc, ça marche partout aussi, ouais.
Bon, on dit qu'il y a 25 000 entreprises québécoises qui cherchent des repreneurs, là, y compris des entreprises agricoles. Fait qu'il y a les opportunités aussi en agriculture là, pour ceux qui sont intéressés.
Oui.
Est-ce que, dernière question, les gens parlent beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que ça vous frappe aussi dans votre ferme?
Ah oui, on est en plein dedans nous aussi. Donc, comme là, actuellement, il me manquerait encore deux personnes au moins.
Oh, ouais.
Il me manquerait encore deux personnes au moins dans mon équipe de semaine. Okay. On fait avec, mais j'ai comme plus de projets, mais je dois comme mettre un frein parce qu'on n'est pas assez nombreux.
Ouais, je comprends.
On est vraiment touché par ça aussi. Ouais,
en tout cas, moi et Brice, on viendra au moins donner un coup de main un samedi. On fera un tour là-bas, ça nous fera plaisir. Alors, merci beaucoup, mon cher Edem Amegbo. Je rappelle que tu es fermier des jardins d'Edem à East Fernam, dans les cantons de l'Est. Donc, voilà, je pense que c'était un parcours très intéressant. Tu es immigrant d'origine togolaise qui est arrivé ici et puis qui travaillait dans le domaine de l'ingénierie, qui s'est reconverti sur la terre. Je trouvais que c'était un bel exemple, un modèle à présenter pour les jeunes de notre communauté qui nous écoutent. Les jeunes immigrants, hein, latinos, asiatiques, européens, africains, je pense que c'est un bel exemple. Et puis, ça m'a fait beaucoup plaisir. Là, vous nous accordez en plus une entrevue depuis votre ferme. Vous êtes encore sur le champ. Quelle générosité. Merci beaucoup, mon cher.
Merci à vous. Bonne soirée.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur CKIA au 88.3 FM. Vous pouvez toujours nous suivre sur Dignité Noire-CKIA FM sur notre page Facebook. Donc, si vous manquez nos émissions, elles sont toutes archivées en balado sur www.ckiafm.org. Alors, je rappelle que nous vous proposons 4 émissions tout le mois de juin sur les fermiers afro-québécois. Aujourd'hui, je viens de parler avec Edem Amegbo, propriétaire de la ferme Le Jardin d'Edem qui offre des aliments bio à Farnham, dans le canton de l'Est, en Estrie, vers Sherbrooke. Si vous avez du temps cet été, ben allez-y le voir. Écrivez sur la page Facebook Le Jardin d'Edem. Le Jardin d'Edem. Pas Eden. Eden. E-D-E-M. Eden. Edem. Fait que vous pouvez aller le voir. Il reçoit les visiteurs pour travailler sur la ferme une journée. Vous pouvez prendre les paniers bio. Il offre aussi des légumes africains, des courgettes africaines, des gombos, etc. Fait que vous pouvez vous plaire. Moi et Brice, on va faire un tour cet été. Au retour, une petite pause. Et puis au retour, je vais recevoir un autre Africain qui habite non loin d'ici, à la Pocatière. Puis lui aussi, il fait des belles choses. Moi, j'aime présenter comme ça des gens qui s'impliquent. Pas qu'ils soient célèbres, non, mais qui s'impliquent dans la société. Puis ça permet de raconter nos propres histoires, n'est-ce pas? On dit que ce n'est pas au chasseur de raconter l'histoire du lion. C'est au lion de raconter sa propre histoire. Fait qu'on va raconter notre histoire. L'histoire de Monsieur Mino Adjen. Après cette petite pause. Mesdames et messieurs, vous êtes bien sur CKIA 88.3 FM à l'émission Dignité Noire. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook de notre émission Dignité Noire-CKIA FM ou sur le site internet de la station radio www.ckifm.org, site sur lequel est archivé aussi toutes nos émissions en balado. Si par hasard vous les manquez, toutes nos émissions là depuis 3 ans, vous pouvez les regarder. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un autre frère qui n'est pas loin d'ici. Là, lui n'est pas au canton de l'Est, dans les cantons de l'Est. Il est à côté, à la Pocatière, monsieur Mino Adien. Bonsoir, monsieur Adien.
Oui, ça va bien.
Oui, ça va bien. Et vous-même?
Oui, ça va très bien.
Alors, c'est ça. Moi, je vous reçois pour parler un peu de votre parcours. Comme je disais tantôt, là, c'est pas aux chasseurs de raconter l'histoire du lion. Hein. C'est à nous-mêmes de raconter nos histoires. Donc, j'aime comme ça raconter l'histoire des gens de nos communautés qui s'impliquent, transforment leur milieu. Et alors, aujourd'hui, on va parler de votre histoire, l'histoire de Mino Adien. Alors... Vous êtes d'origine béninoise, bénino-togolaise. Bah, mon collaborateur est béninois aussi. Brice est à côté là.
Enchanté, Brice.
Enchanté, ça fait plaisir.
Alors, vous êtes arrivé au Québec en décembre 2004. Vous vivez avec votre conjointe et vos deux enfants à la Pocatière, dans la belle région du Bas-Saint-Laurent depuis 2006. Mais vous m'avez dit que vous étiez à Québec aussi avant. Vous êtes conseiller en sécurité financière à la financière Sun Life et président du cabinet en assurance de personnes, service financier Mino Adien Incorporé. Vous avez commencé votre carrière de conseiller en sécurité financière à la Sun Life en novembre 2015. Donc, aujourd'hui, j'aimerais... vous m'avez été chaudement recommandé par mon frère Yami Nankal, qui m'aide à recruter un peu les frères en région. Là. Nankal, il a beaucoup de réseaux. Alors, j'aimerais donc parler un peu de votre parcours, vos implications, parce que vous êtes quelqu'un de très impliqué. Et les défis et opportunités de s'installer en région. Moi, j'aime beaucoup rencontrer les frères qui sont en région, parce que tout n'est pas seulement à Québec et Montréal. Donc, on va commencer par votre parcours. Vous êtes arrivé en 2005 à Québec?
Oui.
Directement?
Absolument.
Oui, allez-y, oui, racontez un peu votre arrivée ici, là.
Absolument. Moi, ce qui m'a amené au Québec, c'est pas compliqué, c'est après mon bac en agroéconomie, je voulais continuer un peu vivre autre chose. Puis en fouillant un peu sur Internet, je suis tombé sur un programme de l'Université Laval qui est un diplôme de deuxième cycle en développement rural intégré. Parce que souvent, chez nous, les projets, vous le savez, quand on les monte, souvent on est dans des bureaux. On fait des projets, on se rend sur le terrain, puis on veut l'appliquer, puis on se rend compte qu'au fond, ça ne colle pas à la réalité. Alors, ce qui m'intéressait de ce programme, c'est qu'on partait de la base. Donc, au lieu d'avoir une approche descendante, c'était plutôt une approche ascendante. Donc, on partait des gens du milieu, on allait les rencontrer pour savoir leurs besoins, les identifier, et tranquillement, on montait le projet avec eux. Ça a deux conséquences. Ça permet aux gens de s'impliquer dès le départ dans le projet. Et la deuxième conséquence, c'est que ça permet aux gens de s'approprier le projet à la fin. Quand il n'y aura plus de financement, étant donné que c'est un projet qui vient d'eux, ils sont capables de l'emmener à terme.
Okay. Très intéressant. Donc là, vous étiez à Québec. Qu'est-ce qui... Maintenant, vous retrouvez à la Pocatière, là. Comment on en arrive à décider d'aller en région? Parce que souvent, les immigrants, on aime ça rester à Québec ou Montréal. Vous avez choisi d'aller à Bas-Saint-Laurent. J'avoue que c'est une excellente belle région. Là. Moi, j'aime beaucoup aller à Kamouraska à côté. Là. Mais comment on décide d'aller s'installer en région? Sous quel coup de tête on prend une telle décision?
Dans mon cas, c'était une décision un peu accidentelle dans le sens où je devrais faire un stage après ma formation universitaire et je l'ai trouvé à la Pocatière, donc à l'UPA, Union des producteurs agricoles. Alors, c'est ça qui m'a amené à la Pocatière. Mais aussi, avant de m'en venir, j'ai comme regardé un peu la Pocatière et la Pocatière a cette particularité-là par rapport aux villes du Québec. La Pocatière a été un pôle de développement important dans l'histoire du Québec. Parce qu'on est peut-être à 5000 résidents permanents, puis avec les étudiants durant l'automne et l'hiver, on remonte peut-être à 8000, mais on a un hôpital, on a une école primaire, on a deux collèges, un privé et un public, on a un cégep d'enseignement général, on a un cégep d'enseignement agricole et beaucoup d'institutions de développement. Donc, ça me frappait beaucoup de voir un petit milieu avec autant d'institutions, pour moi, c'est un objet de curiosité. Donc, je voulais voir comment est-ce qu'on en arrivait là. C'est quoi l'évolution institutionnelle de l'apocatière? Donc, c'est le sujet de ma recherche. C'est ça qui m'a amené à l'apocatière, première raison. La deuxième raison qui m'a amené à l'apocatière, c'est que je me suis dit, quand on est immigrant et qu'on s'installe dans les grands centres, ce qui arrive souvent, on se retrouve avec les gens de notre communauté ou qui viennent du même pays que nous. Conséquence malheureuse, mais réaliste, c'est qu'on ne finit pas se ghettoiser. Donc, on ne finit pas se retrouver avec des gens qui viennent du même coin que nous. On parle toujours les mêmes sujets. Ça tourne toujours autour de la même chose. Mais je me suis dit, tant qu'à partir à l'étranger, je voulais vivre autre chose. Donc, pour le vivre, il faut que je sois dans le day-to-day, excusez-moi le bon français dont je parle, pour comprendre un peu cette réalité-là, puis la vivre. Donc, l'apocatière était pour moi un laboratoire idéal pour vivre en immersion complète dans la réalité québécoise, parce que quand je venais à l'apocatière, il n'y avait pas beaucoup de noirs non plus. Donc, j'avais le mandat, c'est comme ça que je me vois toujours, je me vois comme un ambassadeur, un pionnier de ma communauté de départ. Je voulais juste démontrer à tout le monde que peu importe d'où on vient, si on veut, puis qu'on fait les choses comme il faut, peu importe où on va s'installer, on est capable de faire sa marque et de faire son chemin, tout simplement.
Est-ce que, donc, tu as été un pionnier, là? Est-ce que d'autres t'ont suivi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres immigrants africains qui s'installent là-bas?
Oui. Tantôt, je disais qu'il y avait un développement institutionnel important à la Pocatière, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui viennent d'un peu partout. Amérique latine, Afrique et tout ça. Ma conjointe m'a suivi aussi parce que moi, je suis parti, puis elle est revenue 5 ans plus tard me rejoindre avec notre garçon. On a eu une deuxième fille. Puis je vois maintenant qu'il y a d'autres personnes qui viennent travailler chez Bombardier ou qui viennent enseigner à l'ITA ou dans d'autres centres d'ici. Je trouve ça agréable de voir que cette communauté s'élargit et que de plus en plus, ce n'est pas juste les grands centres qu'on vise quand on immigre. On veut également s'installer en région. Parce que je pense que si on veut faire évoluer les mentalités, si on veut faire changer les choses et créer cette unicité entre immigrants puis population d'ici, je pense que c'est important de s'installer dans ces milieux-là et de démontrer à tout. D'abord, se prouver qu'on est capable, qu'on a cette capacité-là. Parce que partir de chez nous, c'est pas facile. Mais s'installer ailleurs, en dehors de la communauté, ça nous fait grandir et ça nous fait créer un réseau de contacts, d'amis pour demain, pour nous-mêmes, pour les gens qu'on connaît. Et je trouve, de ce point de vue-là, c'est assez agréable.
Ben c'est intéressant. C'est une thématique de l'heure, hein, la régionalisation de l'immigration. Et puis, tantôt, vous parlez de l'isolement, là, l'isolement que j'appelle stratégique pour réussir. Je recevais avant vous le fermier Edem qui est à Farnham, et il disait la même chose. Hein, il disait, à un moment donné, il a fallu s'isoler, lui, pour monter son projet de ferme, parce que autour de lui, les gens étaient réfractaires à son projet de reconversion parce que lui, il était ingénieur dans une grande compagnie et puis il a décidé d'embrasser la terre. Donc, parfois, il faut s'isoler pour mieux réussir aussi. Mais là, c'est pas évident là, quand on décide d'aller en région, surtout dans des petits villages ou des petites villes. Là. Moi, je me rappelle, j'étais allé, il y a 2 ans, j'étais à Carleton-sur-Mer. Je dormais dans une auberge et puis le couple propriétaire de l'auberge venait de Montréal. C'est des couples blancs là. L'homme est blanc, la femme est blanche. La dame me dit, même pour eux là, c'est pas facile quoi. Parce que les gens les traitent de Montréalais. Il lui a fallu, lui, à elle et son mari là, il leur a fallu 7 ans pour être acceptés dans le village. Alors qu'elles sont elles-mêmes natives de Québec, elles sont blanches de peau, etc. Fait qu'elle dit, mais c'est pas seulement pour vous les immigrants, même pour nous, c'est pas évident. Alors, j'imagine, s'installer dans certaines régions aussi, c'est pas évident. Là. Est-ce que vous avez fait face à certaines difficultés d'installation?
Je pense que, oui, immigrer puis vivre dans un petit milieu, ça prend... Je pense qu'il y a 3 éléments qu'il faut mettre en place. Ça prend beaucoup de caractère. Il faut avoir cette capacité de dire, je m'en vais là, puis je m'installe là. La deuxième, c'est qu'il faut savoir qui on est. Parce que pour moi, l'autre n'est jamais une menace. L'autre ne me définira jamais. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais où est-ce que je veux m'en aller. Donc, j'ai cette stabilité-là en moi. L'autre est juste une autre fenêtre sur le monde qui me permet d'aller plus loin, de découvrir autre chose tout simplement. Et la troisième chose qui est importante, c'est être extraverti. Parce que si tu viens dans un petit milieu comme ça, puis que tu es introverti, donc tu restes chez vous, ça va devenir difficile parce que les gens ne vont pas cogner à ta porte pour te faire sortir. Mm-hmm. Alors, donc le fait d'être extraverti, puis d'avoir de l'humour, ça permet de déverrouiller plein de choses et de s'impliquer, d'aller en avant. Parce qu'au fond, moi, je me dis, l'immigration, c'est un pont concret. Parce qu'aujourd'hui, quand je parle aux gens de chez nous, ils disent que j'ai un accent. Je parle aux gens d'ici, ils trouvent que j'ai un accent. Donc, en partant de chez moi, automatiquement, je deviens un pont entre deux cultures. Deux cultures que je métisse, qui se respectent mutuellement et qui nous font grandir. C'est ça la beauté de la chose. Donc, ces trois éléments sont vraiment importants à mon point de vue. C'est d'avoir le guts, comme on dit. Donc, avoir le courage de dire, ben, je vais là, je me mets en danger un peu. On va le dire sous cet angle-là. Deuxième, c'est l'humour. Troisième, c'est de savoir qui on est puis d'être extraverti. Après, moi, je pense avec ces caractères, on est capable de faire de grandes choses, je crois.
Très bon conseil, qui peut s'appliquer même en ville aussi là. Ne pas laisser l'autre nous définir. Hein. Ça, c'est, on a foncé un peu partout. Il ne faut jamais laisser ça, les autres nous définir. Ça, c'est important. Ça fait que ces trois conseils, je les rappelle, avoir du caractère, savoir qui on est, ne pas laisser l'autre nous définir, être extraverti, ouvert, s'impliquer. C'est bien utile, pour parler en bon québécois, là. C'est bien utile aussi en ville, par exemple. Alors, parlons un peu de votre implication, là. Moi, j'ai lu votre CV, et puis ça, c'est impressionnant. On va le résumer ensemble, là. Je peux pas tout lire, mais moi, j'aime ça. Vous êtes le candidat idéal pour cette section d'émission parce que j'aime parler des gens qui s'impliquent. Pas des gens riches ou célèbres, non. Des personnes qui s'impliquent, même s'il faut juste balayer la rue. Et vous, d'ailleurs, on va y revenir, là, vous étiez même pompier volontaire. Mais on va commencer d'abord par la profession. Là, vous êtes président du cabinet en assurance des personnes services financiers Mino Adjin.
Oui.
Vous partez de l'agronomie. Vous êtes parti de l'agronomie aux finances. Quelle transition.
Ben, au fond, en réalité, moi, j'ai fait l'agroéconomie. Donc, les finances n'ont jamais été loin. Okay. Quand je rentrais sur une ferme, c'est l'évaluation financière et économique qu'on faisait. Donc, pour moi, transposer ce qui se fait en agriculture dans l'individuel, c'est juste un pas. Au fond, ce que j'ai compris, puis ça, tu seras d'accord avec moi, peu importe où on vit, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Nord, je pense qu'il y a deux choses importantes dans une vie. La première, c'est la santé physique et mentale. La deuxième, c'est la santé financière. La première, les gens en parlent de plus en plus. Il y a des campagnes de sensibilisation sur le bien-être, la santé mentale et tout ça. Donc, les gens le prennent en main. La santé financière, qui en parle? Pas grand monde qui en parle. Mais j'ai compris que comme communauté, si on veut ça, si on veut avancer, si on veut progresser, un, l'entrepreneuriat, on ne peut pas passer à côté. Ça va être un élément important pour nous. Et de deux, pouvoir maîtriser les finances, c'est un atout incroyable. Alors, pour moi, c'était ça. C'était ces éléments-là qui m'ont amené à dire, OK, je vais me lancer là-dedans. Oui, c'est sûr, dans le vide, j'écoutais tantôt Eden qui disait la même chose. C'est quand, dans nos pays, je pense le Togo, par exemple, où j'ai vécu plus longtemps, on ne nous forme pas pour devenir entrepreneur, on nous forme pour devenir des employés. Mm-hmm. Alors, ben, faire le saut, faire la transition vers l'entrepreneuriat, je pense que c'est le chemin qui va nous permettre de contrôler. Oui, c'est un grand risque. Je pense que le fait de partir de chez nous, de venir ici, c'est un risque important parce que je m'en allais dans l'inconnu, j'ai pas de famille, je n'avais pas d'attache nécessairement ici. Mais le saut que j'ai fait comme employé vers l'entrepreneuriat, ça a été un saut difficile. Pourquoi? Edem l'a souligné aussi. J'avais une conjointe, des enfants, une hypothèque, des choses à payer. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on va y arriver? Mais il faut avoir le courage de faire le saut. Tantôt, je disais, il faut se connaître, il faut savoir qui on est. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme risque? Tout le monde n'est pas fait pour n'importe quel risque. On choisit notre risque en conséquence de qui on est, de ce qu'on connaît, de comment est-ce qu'on peut interagir avec les gens puis les amener loin. Donc, c'est ça, moi, qui m'a amené dans ça. Puis, en allant dans le monde des finances, ça m'a donné le temps de pouvoir choisir mes projets et de m'impliquer dans ce qui m'intéresse le plus. Je le faisais avant. J'ai été entraîneur de soccer au cégep de la Pocatière pendant 10 ans quasiment. Je l'ai fait pour la ville. J'ai été pompier volontaire. Je me suis impliqué dans le relais pour la ville. J'aime ça. J'aime ça m'impliquer. J'aime ça donner du temps. Pourquoi? Pour juste démontrer que même si je viens de loin, quand j'ai accepté d'être ici comme membre de la communauté, je fais ma part. J'ai des responsabilités. Alors, je vais les assumer, ces responsabilités-là, pleinement, comme tout le monde. Alors, c'est ça qui m'a amené là. Mais le plus beau, je pense, ce qui me rend le plus fier, c'est un phénomène qu'on a, c'est un mouvement qu'on a créé il y a 5 ans, à peu près avec des amis, sur un coup de tête pour sensibiliser les gens. On l'a appelé Govember, c'est-à-dire Go pour passer à l'action, c'est au mois de novembre. On voulait sensibiliser les gens à la santé masculine, surtout les hommes. On le sait, nous les hommes, quand ça ne saigne pas, ça ne fait pas mal. Il faut qu'on se rende là. Mais on s'est dit, non, on ne peut pas se rendre là tout le temps. Si on peut s'arrêter avant, prendre le temps d'aller consulter, de prendre soin de nos bobos et tout ça, pour nous, c'était important. Premier axe du projet. Le deuxième axe, c'est de donner une vitrine pour nos entreprises de la place. Donc, on voulait faire du marketing pour les entreprises. Et la troisième axe du projet, c'est tout ce qu'on ramasse comme argent, on veut le redonner intégralement aux organismes d'aide pour les hommes de notre milieu. La première année, on a commencé ça au mois de septembre. Alors, en décembre, on a ramassé près de 20 000 pour souligner ça. Donc, depuis 5 ans qu'on fait ce projet, ça fait à peu près 100 000 qu'on a pu aller amasser et qu'on a redonné également. Pour moi, c'est une fierté parce que je pense qu'avec ces 3 volets-là, on fait le tour. On vient de boucler. On a parlé de sensibilisation, on a parlé de l'achat local, puis on parle du don local. Alors, c'est vraiment un grand fierté.
Et on parle aussi de redonner à sa communauté. C'est à travers ce mouvement Govember, vous avez redonné à votre communauté aussi. Là, je rappelle donc que ce mouvement Govember que vous avez créé a permis de ramasser 100 000 dollars que vous avez redistribué aux organismes de la région. Fait que c'est magnifique là.
Parce que ben, souvent, ce qui arrive, c'est que quand on est dans... Je pense que comme immigrants, les gens nous perçoivent toujours comme des gens qui viennent prendre. C'est vrai. Peut-être sur certains points, oui. Oui, c'est vrai qu'on vient prendre, mais on vient donner aussi. Je le disais tantôt qu'au fond, quand on parle de chez nous, c'est un échange qu'on fait. On donne et on reçoit. Alors pour moi, c'est d'aller encore plus loin dans cette dynamique-là. Je ne le fais pas tout seul. Ces genres de projets ne se font jamais tout seul. Ça se fait des gens comme moi qui viennent d'ailleurs, des gens d'ici, toute une communauté qui se mobilise, mais il faut aller les voir, il faut leur parler, il faut expliquer un peu c'est quoi le projet, vers où on veut l'emmener. Et en faisant ça, mon rôle d'ambassadeur, mon rôle de pionnier que je disais dès le départ, c'était ça. C'était dans l'action. Je pense qu'au fond, si on veut changer le monde, c'est une action à la fois. On a beau faire des discours, on a beau faire des marches. Oui, ça va peut-être donner des résultats, mais vraiment à long terme. Mais quand on est dans l'action, les résultats sont plus concrets, quantifiables, mesurables. Je pense qu'on impacte beaucoup plus la communauté. Donc, comme homme d'affaires, comme au fond, entrepreneur de mon milieu, comme quelqu'un qui s'implique ici dans ma communauté, je fais juste ouvrir la porte aux autres. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup votre émission. Dignité Noire, pour moi, c'est ma façon de montrer la dignité noire à ma communauté.
Oh là là, je bois littéralement votre parole. Très inspirant. Puis je trouve que la question de la finance est importante. Ici à Québec, il y a Annick Kouitiengamo qui a créé un organisme qui fait de l'éducation financière aussi, notamment dans les communautés immigrantes. Et d'ailleurs, j'ai vu sur sa page Facebook, là, elle va donner un séminaire qui s'intitule A-t-on besoin d'acheter une voiture ou quelque chose comme ça. C'est pour dire aux gens, quand vous voulez faire un tel investissement, pensez à vos besoins, ne regardez pas juste parce que les autres ont ceci que je veux faire aussi, des banques, tout comme ça. Mais c'est intéressant. Et Brice aime beaucoup ça. Tout ce qui est finance, argent, Brice aime en parler.
Oui. Moi, j'avais une question. Là. Le cabinet de services financiers que vous avez créé, ça, oui. Qu'est-ce que vous faites au juste dans ce cabinet-là? Est-ce que c'est un cabinet personnel pour vous, que vous avez créé personnellement pour vendre des produits financiers, puisque vous êtes conseiller en sécurité financière, beaucoup plus des trucs d'assurance, pour couvrir un peu les finances de vos clients?
Écoute, Brice, c'est ça. On va beaucoup plus loin. Au fond, mon cabinet, donc, c'est une compagnie que j'ai créée. Et mon partenaire principal d'affaires, c'est la Sun Life. Donc, au fond, c'est mon partenaire. Le travail qu'on fait à l'interne, c'est ça, c'est d'accompagner les gens, mais à 360. Parce qu'on le sait, oui, il y a des événements incontrôlables de la vie. On peut tomber malade, on peut devenir invalide, on peut décéder prématurément. Mais ce qu'on ne veut surtout pas, les gens qui vont rester après nous, dans quelle situation on veut les laisser? Alors, c'est là où les protections deviennent un élément important. Mais on ne peut pas juste se concentrer juste sur la protection. la retraite va venir, on va passer au travers. Parce que le risque que les gens... Moi, quand je rencontre les gens aujourd'hui, le risque le plus important pour eux, c'est pas qu'ils meurent demain matin, parce que l'espérance de vie est rendue à 85 ans au Canada. Donc, s'ils vivent ici, ils vont se rendre peut-être à 90, à 100 ans. Donc, c'est le risque de longévité. Alors, autant je vais parler aux gens de la protection, autant je vais leur parler de leurs épargnes, parce qu'il faut faire les deux. Les deux se parlent, les deux se combinent, les deux doivent travailler ensemble, non seulement pour la personne que je rencontre comme client, mais également pour sa succession, donc pour ses enfants, pour sa conjointe, son conjoint, pour la suite, et pour l'héritage aussi. Je suivais dernièrement un conférencier qui disait, ça lui posait la question, on était dans une salle virtuelle, qui dit, est-ce que vous vous souvenez du nom de votre grand-père? Silence radio. Il dit, oui, c'est vrai. Mais si votre grand-père s'appelait Rockefeller, d'après moi, il y a de bonnes chances que vous vous souvenez. Mais au fond, c'est une façon imagée de montrer l'importance de bâtir. Avant, là, au fond, on pense que la richesse, ça se fait d'une personne. Or, je le fais de façon instantanée. Non, les plus grandes richesses du monde, dans n'importe quel pays, c'est des richesses qui sont bâties sur plusieurs générations. Alors, mon travail, c'est ça. C'est d'amener les gens à penser à aujourd'hui, penser à demain, mais penser aussi à plus tard. Parce que moi, j'ai commencé ma vie ici à moins 100 $. Pourquoi? Parce que quand je venais, je ne connaissais personne. J'avais rien du tout, là. Est-ce que mes enfants vont commencer à moins 100 aussi? Non. Si je peux les amener à 1 million de dollars pour commencer, je le ferai. Parce que je travaille juste pour ces gens-là. Alors, ma philosophie, ma façon d'amener les choses, c'est dans cette perspective-là, de travailler maintenant, mais à moyen puis à long terme aussi. C'est super important.
Très intéressant. J'espère que ceux qui nous suivent écoutent ça.
Exactement. Je vais terminer par cette question-là.
Il nous reste 2 minutes.
Ouais, je vais terminer rapidement par une question. Là. J'aimerais savoir votre avis. Je sais que vous êtes béninois, togolais et tout. Peut-être vous avez une majorité de clientèle afro-descendant et tout. J'aimerais savoir, c'est quoi votre perception? Comment vous voyez cette communauté-là avec les finances? Est-ce que c'est une communauté qui gère bien ses finances? Est-ce que les Noirs, ils savent faire des placements? Est-ce qu'ils ont des fonds de retraite personnelle? Est-ce qu'ils ont des REER, des CELI assez suffisants pour vraiment couvrir leur retraite plus tard? Parce que la dernière fois, Mbaï disait, la génération d'Afro-descendants qui est ici va souffrir plus tard parce qu'on ne sait pas gérer notre argent de façon plus générale.
Oui, et puis on est arrivé, nous sommes arrivés comme des immigrants à 30-40 ans, on n'a pas eu beaucoup de temps d'épargner, d'avoir une bonne pension. Fait qu'il y a un risque devant nous aussi, j'imagine, si on n'y prend pas garde.
Bah, et Brice, au fond, la vraie question, ce n'est pas le temps, c'est l'information, avoir la bonne information. Je te dirais, dans ma clientèle, là, j'ai à peu près peut-être 2%.
Maintenant, voici des nouvelles directement applicables à votre vie. Le Festival communautaire de musique Suoni per il Popolo a commencé la semaine dernière, présentant de la musique expérimentale de plusieurs genres. Le festival a lieu à la Sala Rossa sur le boulevard Saint-Laurent et continuera jusqu'au 29 juin. Pour en savoir plus, visitez S-U-O-N-I-P-E-R-I-L-P-O-P-O-L-O. Et le Festival des musiciens du monde commence ce jeudi. La programmation de cette année mélange les sons de divers pays comme l'Afghanistan, le Brésil et le Japon. Il y aura aussi des ateliers gratuits pour toute la famille. Le festival aura lieu du 16 au 19 juin dans l'église Saint-Enfant-Jésus sur la rue Saint-Dominique. Pour plus d'informations, visitez centredesmusiciensdumonde.com. Et le festival Mural de Montréal est en cours. Les artistes internationaux de graffiti ont transformé le boulevard Saint-Laurent avec des œuvres vibrantes couvrant des murs entiers. Vous pouvez les apprécier dès maintenant jusqu'au dimanche 19 juin. Visitez muralfestival.com pour en savoir plus.
Boom, check it out, you know it's the boy Dash all the way from Grenada and it's tuned in to C-Cut 90.3 FM.
It's summertime. Time to hit the road. Hit that Trans-Canada Highway. Past the nation's capital, past the sleepy cows, and into the peaceful pastures of Wakefield, Quebec. For the first time ever, Suoni per il Popolo presents a day of revelatory offerings in an historic farmhouse, Fairburn House, bordering the Gatineau River in Wakefield. Saturday, June 25th, music begins at 3:30 p.m. On the bill, Swoney Heartstoppers, Esmarine, Willie Mitchell, Nada El Shazly, and Eliza Caution. For tickets, directions, camping, and all the 411, go to SwoneyPerilPopolo.org. This is a CKUT co-presentation.